c'est votre frère, c'est votre sœur, c'est vos collègues, sont vos parents, c'est vous, c'est moi, c'est même les gens du cinéma qui sont inquiets pour les chiffres et qui les font un petit peu gonfler. C'est votre copain un peu paumé qui passe sa vie devant les écrans, c'est votre voisine qui a un abonnement mais qui n'y va plus trop souvent. C'est le cauchemar des producteurs, des diffuseurs, des réalisateurs, c'est un chiffre. Le mercredi matin à l'UGC de Châtelet après la séance de 9h, c'est un groupe de personnes dont on n'a aucune idée mais qu'on essaie de mettre dans une case, une tranche, une classe, un genre, un lieu. C'est le senior et la ménagère, c'est bobo ou c'est populaire, c'est plutôt femme ou plutôt famille, plutôt Paris, plutôt province, c'est le fan, le curieux ou l'habitué, le paresseux, l'assidu, le régulier, c'est l'inactif ou le CSP, c'est l'étudiant ou le moins de 25 ans, c'est tout ce que vous voulez, tant que ça va au cinéma, celui qui s'y rend 4 fois par semaine et celui qui n'y va qu'une fois par an, ou encore plus rarement, mais il fallait le voir celui-là parce que tout le monde l'a vu, tu comprends, c'est celui qui achète chaque mois les cahiers du cinéma et celui qui l'achète pas, celle qui prend toujours du popcorn salé, celle qui prend un coca, celui qui râle quand on applaudit, celle qui se met toujours à l'avant-dernier rang, c'est vous, c'est moi, c'est ce qui fait qu'un film reste en salle aussi, et même qu'il se fait parfois, c'est le public de cinéma.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui s'est fait une place auprès du public cet été. Vous l'avez découvert dans le nouvel OSS 117, il est encore actuellement à l'affiche de Boîte Noire, l'une des grandes surprises de cet automne, et demain, vous le retrouverez dans Amant de Nicole Garcia, l'histoire de deux destins qui se croisent au gré d'une passion dévorante dans une atmosphère glacée. Bonjour Pierre Ninet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Quelle est la place du public pour un comédien, je me suis demandé. Vous y pensez dans le cadre de votre métier?
Moi j'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours depuis que je fais ce métier. Déjà parce que j'accepte des films que j'ai envie de voir, tout simplement. Parce que quand je lis un scénario, je me dis « est-ce que j'aurais payé 10 euros pour aller voir ça ?» que je pense que le public c'est le boss absolu de ce métier et qu'il faut absolument penser évidemment à ce qu'on a envie de faire, que ce soit personnel, intime quand on est réalisateur et même quand on est acteur, mais aussi je pense qu'il y a une conscience qui est pas mal saine de savoir qu'est-ce que les gens vont voir en salle. Je trouve pas ça indécent de se poser la question quand on crée.
Le boss dans le sens où c'est lui qui vous paye tout simplement.
Oui.
Et pour autant est-ce que le public a toujours raison?
Il a rarement tort, hein. Malheureusement, on peut rarement lui donner tort. Non, mais je crois que c'est beaucoup de la post-interprétation, le cinéma. C'est comme les mauvaises voyantes, quoi. C'est un peu, ça s'est passé, et on vous dit, ah bah oui, oui, mais ça c'était sûr, hein. Ça, le film, il allait pas marcher, hein. Ah bah ça c'était sûr, il allait marcher, lui. Mais en fait, on sait jamais. C'est ce qui est à la fois génial, magique et déboussolant avec cette industrie. C'est que en fait c'est des coups de poker et que quand ça marche c'est extraordinaire, quand ça marche pas on sait pas trop pourquoi.
Et il arrive qu'il vous surprenne. Quand est-ce qu'il vous a surpris pour la dernière fois le public?
Je pense que Boîte Noire, le film que j'ai fait qui est vraiment un thriller français, un film d'enquête, presque un techno-thriller.
De Yann Gozlan,
ouais, avec André Dussolier, Lou Delage. J'adore ce film, j'en suis super fier vraiment. Je trouve que c'est un boulot de cinéaste, de cinéphile absolument dingue. Mais je me suis dit, on fait 700 000 entrées avec un... là, en post-Covid et tout, c'est déjà génial. Et on va faire, pas le double, mais presque, quoi, 1 200 000 spectateurs. Donc c'est un bouche à oreille. C'est vraiment le bouche à oreille. Et là, c'est magnifique parce qu'on sait que c'est pas les campagnes de pub, c'est pas l'argent qui a fait venir les gens, c'est la qualité du travail et de la qualité du bouche à oreille.
Évidemment, vous me voyez venir, surtout en ce moment, comment on donne envie au public de se déplacer? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, puisque vous parlez de ça encore aujourd'hui, à franchir le seuil d'une salle de cinéma en tant que spectateur?
Je pense qu'il va falloir de plus en plus proposer des expériences de cinéma inédites, fortes, avec du tempérament, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que de loin, les gens arrivent à se dire « Ok, je sais pourquoi j'y vais. Il va peut-être moins y avoir la place pour le pourquoi pas, le « Ah tiens, je vais le tenter », qui va finalement se retrouver chez les gens. C'est une métamorphose, c'est pas grave, faut pas penser que c'est absolument tragique, ce sera jamais la fin du cinéma. C'est pas parce que... Il y a des albums de Orelsan que j'ai pas envie de le voir en concert, donc c'est la même chose le cinéma, on aura toujours envie d'aller en cette salle, ce sera jamais mort.
Mais quel genre de spectateur est-ce que vous êtes, vous, Pierre Ninet? Curieux, émotif, exigeant, amoureux?
Je pense un peu de tout ça, je crois que un peu de tout ça. Maintenant, je suis social, c'est-à-dire je suis pas solitaire du tout. Je suis jamais allé au cinéma tout seul, par exemple, de ma vie. Enfin, je crois que ça m'est arrivé une fois, et c'était sur un film d'horreur où je m'étais trompé de salle et mes potes étaient dans une autre salle. Du coup, j'ai vu un film d'horreur tout seul. C'était catastrophique.
Et, c'était quel film?
Je sais plus.
J'espère que c'était pas La Secte sans nom, Pierre Ninet.
Non.
Ah bah ça m'a traumatisé. Moi, depuis mes 17 ans, je crois.
Ouais. C'était pas ça. Mais ça, ce qui m'a traumatisé, c'était d'être tout seul dans cette salle, moi. Et ça, j'ai jamais refait. Mais il y a des spectateurs qui y vont vachement tout seul. J'ai plein de potes qui me disent, mais refais-le et tout. Donc, je vais le tenter. Mais sinon, moi, pour moi, c'est un moment de partage. Et de kiff avec des amis ou avec mon amoureuse, ouais, j'adore ça.
Ah, c'est intéressant, amoureux. D'ailleurs, je vous ai posé la question, dans quelle mesure est-ce que c'est aussi à travers les films que vous avez pu voir en tant que spectateur que vous avez appris ce que c'était que l'amour? Tiens, l'amour ou autre chose, mais l'amour, ça m'intéresse.
C'est quand même au cœur de beaucoup de films que j'adore. Là, il me vient en tête un film que les gens, je trouve, ont pas forcément assez vu en France. Parce que c'est l'amour, c'est la filiation aussi dans l'amour. Je pense à ce film qui s'appelle The Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling. J'adore ce film et je suis sorti bouleversé de ce film. J'étais au Hall, à Châtelet, dont vous parlez, là, cette salle un peu repère, boussole, un peu mythique pour ceux qui font le cinéma. Et je sors en larmes de cette salle, complètement en larmes.
Et en incarnant des rôles, on a la même sensation, on en sort aussi différemment?
Ah oui, c'est sûr, ouais. Ouais, je pense que moi je suis chargé un peu de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai incarné.
Alors précisément, qu'est-ce qu'il en reste en vous d'un personnage, d'un rôle, une fois que vous avez fini de l'incarner? Le personnage de Simon dans Amant, de Nicole Garcia par exemple, il en reste quoi concrètement à vous? Quelle empreinte est-ce qu'il a laissé dans votre tête, Pierre Ninet?
Il y a l'empreinte de Nicole Garcia, en fait, parce que je disais hier, il y a une rétrospective de tous ces films là en ce moment à la Cinémathèque à Paris, et hier on était là-bas pour ouvrir le bal avec Amant, et je disais que c'était ce qui me reste, c'est une langue, c'est le Nicole Garcia, quoi. Ça se parle, il faut savoir le parler couramment quand on veut commencer un film avec Nicole Garcia.
Là vraiment vous me tendez des perches, comment on parle le Nicole Garcia?
Alors le Nicole Garcia, c'est pas la langue de tous les jours exactement.
Vous êtes bilingue déjà ou pas?
Alors j'espère peut-être en faisant un prochain film avec elle. Parce
vous êtes
que
fluent.
Je le souhaite, j'espère être fluent en Nicole Garcia. Mais c'est pas de l'anglais, c'est un français mais dépouillé, et en même temps il y a une je sais pas comment dire, il y a quelque chose de glacial. Vous parliez tout à l'heure de ça. Il y a quelque chose de glacial et en même temps il y a quelque chose de Il y a un chaud froid presque à la russe chez Nicole Garcia.
Ça veut dire que vous êtes nourri de certains de ses films pour composer ce personnage aussi?
Oui, je pense que j'avais déjà noté que c'était un verbe particulier. Et puis là, dans Amant, il y a presque par moment quelque chose de très simple dans les mots. Mais une fois, j'ai essayé d'improviser avec Nicole. Et puis elle m'a dit, elle vient me voir, elle m'a dit, c'est bien, j'aime bien le thème de l'impro, mais tu peux pas dire ça. Alors que vraiment, je disais un truc, mais on ne peut plus, banal, entre guillemets, quoi. C'était vraiment la situation.
Mais c'était pas en Nicole Garcia.
Et c'était pas, je l'avais pas dit en Nicole Garcia, et j'étais pas encore bilingue. Mais c'est ce que je lui disais hier, c'est que je parle un peu espagnol, anglais, allemand, mais ma langue préférée, c'est vraiment Nicole Garcia.
À quoi ça tient l'incarnation d'un personnage pour vous? Quel travail est-ce que c'est? Par quoi ça passe? Par une langue, justement, d'abord?
Par le corps, moi, je préfère le corps. Je préfère. On est assez intellectuel en France, les acteurs, on aime bien se retrouver autour d'une table, lire un texte, se prendre la tête, avec des trucs qui vont nous servir à rien potentiellement quand on va jouer une fois dans le concret de la chose. Moi, j'aime bien être tout de suite dans le concret et j'aime bien être dans le corps. Qu'est-ce que c'est les chaussures de mon personnage? Qu'est-ce que c'est le costume? Comment il marche?
Et vous dites aussi, et c'est passionnant, par un travail en bonne intelligence avec la caméra.
Ouais.
Avec ce qu'elle est en train de faire, ça veut dire quoi, Pierre?
Ça veut dire que moi, je crois pas que ce soit toujours forcément malaisant ou indécent d'aller regarder ce que la caméra filme ou de savoir quelle focale on a mis, parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes focales, on peut nous filmer plus en plus ou moins gros plan. Et ce qui fait un cadre, parfois en France, les gens sont là, tu regardes. Moi, je me regarde pas jouer, je regarde comment le cadre se compose. Il m'est arrivé, quand j'avais moins d'expérience, de vouloir à tout prix faire un truc, et puis de réaliser, quand le réalisateur, à la fin de la journée, me dit « Tu veux voir ce qu'on a fait ?» Réaliser que c'est pas du tout dans le cadre. Qu'en fait, on voit pas ça, on le voit pas, parce que c'est derrière, parce que machin. Donc, il faut connaître les caméras, je pense que ça peut aider un acteur.
Mais alors, quel est le cadre, quelle est l'angle de caméra qui vous rend le mieux justice?
Alors, j'en suis pas savoir à ce point-là.
Ceci dit, la prochaine question,
non.
C'est quel est votre bon profil?
Évidemment.
Quel est votre bon trois quarts?
On y va.
Moi,
je préfère être comme ça. Voilà. Mais non. Mais en fait, je pense qu'il faut pas être. Moi, je suis contrôle fric sur mon jeu, ce que j'ai envie d'incarner, ce que je veux absolument que la scène raconte, parce que je pense qu'il faut pas passer à côté. Mais par contre, le travail du réalisateur, il est primordial. Donc, il y a aussi un lâcher prise énorme qu'il faut donner au réalisateur.
Et quelle expérience est-ce que c'est, je me suis demandé, pour vous, de voir votre visage sur un écran?
Je me dis toujours que c'est pas naturel du tout. Je pense toujours que c'est quand même un... c'est pas naturel, donc je regarde jamais mes films, je les vois une fois quand ils sont finis, mais je les revois jamais.
Parce que vous ne vous reconnaissez pas?
Si, je me reconnais, mais je sais pas, il y a quelque chose de contre-instinctif à se voir en aussi grand, devant les gens. Bizarrement, hein, je trouve que le cinéma c'est le truc le plus beau au monde, et en même temps je trouve que interpréter un film et ensuite le voir, c'est pas très naturel, c'est un peu tronqué, bizarre. Il y a une étrangeté. C'est pour les gens. Le plaisir, il est pour les gens, encore une fois. Public is the boss. C'est pour le public, c'est pas pour nous.
Au fond, Pierre Ninet, quel public est-ce que vous êtes pour vous-même?
Je suis assez exigeant et je crois qu'il faut que j'apprenne à être peut-être encore un peu plus bienveillant avec moi-même.
C'est qu'il y en a une qui est très bon public dans cette émission. Trop? Peut-être. La culture, évidemment, et son actualité qui ne fait pas dans la dentelle. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 16 novembre? Pitchfork frappe fort après une pause en 2020. L'édition parisienne du festival, créée par le site musical de référence Pitchfork, revient dès aujourd'hui électriser les dance floors de la capitale. Déployée dans une dizaine de salles, de la Gaîté Lyrique au Bataclan, la manifestation invite près de 50 artistes et groupes à réchauffer nos soirées d'automne. Au programme des 6 prochains jours, les Anglais Chic de Métronomie en Majesté, notre gourou de la pop à barbe maison Sébastien Tellier ou encore Shy Girl, la nouvelle sensation de l'underground londonien qui dépote au top.
J'écris de la poésie et je suis peintre et je m'intéresse un peu au monde tel qu'il est, là où il va.
Éternelle est-elle, la peintre et poétesse d'origine libanaise, est-elle Adnan, s'est éteinte dimanche à Paris. Elle avait 96 ans, née à Beyrouth d'un père syrien et d'une mère grecque. Vivant entre la France et les États-Unis, elle était une légende de l'art contemporain. Tissant des ponts entre les continents, les langues, les disciplines, elle était l'artiste d'une œuvre de la couleur, de la paix et de la lumière, autrice notamment du recueil L'Apocalypse arabe. Elle s'est éteinte alors que son travail est à l'honneur d'une grande exposition « Écrire, c'est dessiner » au Centre Pompidou-Metz jusqu'en février prochain. En avant, la musique. Pierre, samedi à Caracas, au Venezuela, près de 12 000 musiciens ont joué dans la cour de l'académie militaire de la ville pour battre le record du plus grand orchestre du monde. Issu d'un programme public fondé en 1975 pour rendre l'éducation musicale accessible à des milliers d'enfants issus de classes populaires, les musiciens ont donné un concert à la tombée de la nuit et interprété notamment la marche slave de Tchaïkovski. Le record devrait être homologué dans les prochains jours, détrônant celui établi par la Russie en 2019 avec ses 8 497 musiciens, qui dit mieux. Et enfin, tous à table, le guide gastro et moderne du Fooding vient de décerner son prix de la meilleure table de France 2022. Résultat, c'est l'Auberge de la Roche qui emporte la mise, un établissement tout en pierre et en jardin fondé il y a 2 ans dans l'arrière-pays niçois. Perché dans la vallée de la Tinée, la table propose une cuisine naturelle et virtuose alimentée par un potager en permaculture, des produits glanés chez des producteurs locaux et même un poulailler maison. 2 chefs orchestrent cette belle réussite, Louis-Philippe Riel et Alexis Bijaoui. On dit oui. Et Pierre Ninet, évidemment, invité de Boomerang ce matin pour Amant de Nicole Garcia en salle demain, film aux accents volontiers tragiques. C'est quand même intéressant parce que, ne serait-ce que dans les 3 derniers films qu'on a vus avec vous, OSS, Boîte Noire qui est toujours à l'écran et Amant, aucun n'appartient au même genre, et ça pose une question: dans quelle mesure c'est un choix pour le comédien que vous êtes de ne pas se laisser enfermer dans un genre?
C'est une envie et un désir qui est là depuis le début, plus qu'un choix. Dès que je finis une comédie, j'ai super envie de faire un thriller. Dès que je finis un thriller, j'ai envie de faire un film avec Nicole Garcia.
Et vous pensez que ça aurait pu vous arriver d'être coincé dans un genre? Parce que ça arrive. Hein.
Bien sûr, ouais. Je pense que ça peut arriver très vite. Si justement on s'oriente pas vers des choses tout de suite où on indique aux gens qu'on a un désir plus vaste. Après, je viens du théâtre, donc je me suis rarement imaginé jouer que de la comédie, que du Feydeau ou que du Corneille. Non, ça m'aurait embêté.
Diriez-vous que l'intérêt de votre métier réside également dans l'exploration de différents genres cinématographiques, dans un jeu avec les codes aussi, dans le traitement que vous avez de votre métier?
Ah ouais, à fond. Les codes, c'est passionnant. Les codes, là, je pense évidemment à Boîte Noire et puis aussi à Amant, parce que Amant, il y a les codes quand même du film noir d'une certaine manière, oui. Et puis du triangle amoureux qui est quelque chose qu'on adore en France et qui est passionnant. Mais oui, jouer avec les codes, mais c'est génial. Et puis c'est génial pour le spectateur, découvrir un microcosme, en comprendre les règles du parrain à Star Wars, on adore.
Et jouer avec un langage aussi, vous en parliez tout à l'heure. Jouer un héros comme celui de Amant, en quoi ça implique tout de suite de votre part un type de jeu particulier, une technicité spécifique de jeu?
Dans Amant? Ça se rapproche assez du théâtre. Enfin, je pense que c'est le projet le plus proche du théâtre qu'on m'ait proposé. Il y avait Franz de Ozon qui avait un petit peu ça aussi, mais là, il y avait trois personnages avec Benoît Magimel et Stécie Martin, trois actes, trois lieux. Il y avait quelque chose comme ça qui aurait presque pu être une pièce de théâtre, quoi.
Et puis pas d'improvisation, Pierre.
Et pas trop d'impro, parce qu'il faut parler couramment de Nicole Garcia.
Évidemment.
En même temps, je dis pas d'improvisation. Elle est très ouverte à plein de choses, et moi, je lui ai proposé plein de choses, et on s'est adoré. J'ai adoré travailler avec Nicole.
L'improvisation, elle se loge plus particulièrement dans la comédie.
Alors, disons que Jonathan Cohen fait plus appel à mes qualités d'improvisateur que Nicole Garcia, mais c'est un vrai plaisir d'improviser avec quelqu'un qu'on... Là, je pense à Jonathan Cohen parce qu'on a fini le tournage de La Flamme saison 2 qui passe sur Canal+. Et évidemment, un de nos grands plaisirs, c'est là, on avait une scène avec Jonathan.
Vous jouez le psychanalyste.
Hein. Moi, je joue un psychiatre qui s'est auto-proclamé psychiatre, oui. Qui est autodidacte.
Et qui est un peu sadique, hein, on peut le dire.
Et qui est un peu sadique, en tout cas, qui fait faire aux gens le ménage en prétendant que ça va leur nettoyer la tête, mais ça nettoie quand même surtout son canapé. Et en fait, voilà, pour exemple, on était là, on tournait en Corse, et puis on avait une scène. Et il est arrivé, il a voulu me faire la bise, moi je voulais lui serrer la main, et cette impro a duré vraiment en montre en main 8 minutes avant qu'on commence le texte qui était prévu, quoi. Donc les techniciens à la fois riaient et en même temps se tiraient les cheveux en se disant putain, on en a pour 2 jours. Donc j'adore l'improvisation avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on se renvoie bien la balle. C'est peut-être le plus grand plaisir, je pense être le plus proche. Je me suis toujours dit que acteur c'était génial, mais que le plaisir de rockstar sur scène quand on chante une chanson et que tout le monde chante avec nous, ça va être le truc le plus fort qu'on puisse jamais vivre et que je pourrais pas vivre malheureusement. Et quand je fais de la comédie avec quelqu'un, je crois que je suis pas loin de cette jouissance-là.
Mais vous qui vous interrogez beaucoup sur votre travail, Pierre Ninet, faire rire, quelle technique de jeu est-ce que ça implique ?
De la rythmique, on revient à la musique en fait. On revient à la musique, c'est vraiment de la rythmique. En fait, il n'y a pas grand-chose d'autre, c'est de la rythmique.
À vous entendre, c'est aussi de l'écoute, même surtout de l'écoute.
Avec celui
qui est en face de vous ou celle qui est en face de vous.
Ouais. Faire de la comédie avec quelqu'un qui écoute pas, c'est le pire truc, quoi. C'est une torture. Ouais.
Qu'est-ce qui fait un bon partenaire pour vous, un bon partenaire de jeu?
L'écoute et puis le plaisir, quoi. L'écoute, parce que c'est impossible, même dans le drame. Enfin, vraiment, jouer avec des gens qui écoutent pas, c'est. Alors, il y a des acteurs américains qui travaillent comme ça. Hein. Moi, je sais que Christian Bale, par exemple, j'ai eu plusieurs témoignages de gens, alors que c'est un de mes acteurs vraiment favoris, comme beaucoup de gens, pas très original, mais vraiment, il est extraordinaire. Et apparemment, il est tellement dans la construction de son personnage, ses carnets, son acteur studio, qu'en fait, il trace sa route et il n'y a pas tellement de réaction à ce que l'autre fait. Or, c'est pas de moi, je sais plus qui dit ça, on est censé être plus réacteur que acteur tout court.
Ah.
Et moi, je crois beaucoup à ça.
Vous savez, c'est intéressant de parler de comédie, je sais que c'est un genre que vous aimez beaucoup, et pourtant vous dites que les bons scénarios de comédie, c'est assez rare.
Ouais, il y en a peu. C'est très dur à écrire une bonne comédie, c'est plus dur qu'un bon drame.
Pourquoi ?
Déjà, j'ai l'impression qu'il y a 1000 façons de faire venir un film à... Enfin, de faire venir, pardon, des spectateurs à aimer un drame. Un drame, il y a 1000 façons de l'aimer. On peut être touché, on peut trouver ça intéressant, on peut trouver ça bouleversant.
Tandis que la comédie, soit tu ris
voilà,
pas, quoi.
C'est un peu plus violent.
Et alors pourquoi c'est si difficile de faire rire au cinéma, en termes d'écriture, hein ?
Déjà, il y a tellement d'humour différent, et puis il y a peut-être aussi une forme de snobisme. Moi, j'en parle volontiers, mais justement autour de la comédie, c'est-à-dire on sort d'un film, on est ému. Je trouve qu'il y a une reconnaissance plus facile et plus grande en France, immédiate, et qui nous met plus en valeur en tant que spectateur que de sortir d'un film où on a vachement ri et dire je trouvais ça super drôle. Et dis donc quel taf, c'est incroyable d'arriver à être aussi drôle et tout. Ça arrive, moi je vois des gens rire en projo et sortir en disant c'est sympa. Ah, c'est dur de faire rire.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. T'as commencé par le cadre dont on parlait tout à l'heure, je suppose.
C'est-à-dire, oui, pour... le cadre de la caméra.
Pour faire rire.
Ouais, bien sûr. Évidemment. Et puis on a, Mais c'est pour ça que moi j'étais très content de jouer dans OSS 117, où le sens du cadre de Hazanavicius et de Bedos sont pas les mêmes, mais sont passionnants tous les deux, évidemment. Le cadre depuis Jacques Tati, c'est un des acteurs du film, quoi, en comédie.
Vous parliez de théâtre tout à l'heure, Pierre Niney, au fond, quelle liberté est-ce qu'on dispose en tant qu'acteur dès lors qu'on est libéré de la pression de ce cadre, de la pression de la caméra?
Quelle liberté on connaît?
Oui.
Bah, c'est quasiment... On est Dieu, quoi. On est Dieu quand ça se passe bien.
Oui, je vous ai entendu dire un jour que théâtre, c'était l'acteur qui faisait son propre montage.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'en fait, y a une liberté au théâtre, c'est qu'une fois qu'on est sur scène, le metteur en scène, il ne peut plus toucher à nous. Et puis c'est parti, quoi. Et puis on traverse la pièce d'un tenant.
Vous voulez dire que vous le défiez aussi?
Bah, qu'on vole encore plus de ses propres ailes, donc c'est à la fois plus vertigineux, le théâtre, pour ça. Et en même temps, bah oui, on est son propre monteur, on sait ce que c'était la scène avant, et on sait ce qu'on va dire juste après. Donc, il y a encore un sentiment de toute puissance encore plus incroyable et encore plus magique, peut-être, au théâtre.
Vous y reviendrez, au théâtre?
Bien sûr, ouais.
Entre nous, vous regrettez parfois d'avoir quitté la Comédie Française?
Ça reste entre nous, hein.
Ouais, complètement. Personne n'écoute Boomerang, c'est bien.
Les gens n'écoutent plus Boomerang, j'espère. Non,
ça fait 8 ans,
c'est... Oui, mais ça paraît logique, en même temps. Je regrette d'avoir quitté la Comédie Française. Non, j'ai jamais regretté d'être parti. J'ai jamais regretté d'être parti parce que je suis parti que avec des bons souvenirs.
Et pourquoi vous en êtes parti?
Parce que j'avais que des bons souvenirs et que je voulais pas passer de l'autre côté.
Pour être plus libre aussi.
En vrai, j'avais jamais été mon propre patron. Et j'avais toujours eu quelqu'un qui me disait, est-ce que j'avais le droit d'aller tourner quelque chose? Est-ce que la bonne nouvelle d'être pris sur un film était vraiment une bonne nouvelle?
Oui,
ou allait être le drame de, en fait, je peux pas le faire finalement? Et là, à partir de la Comédie Française, c'était pas arrêter le théâtre, c'était quitter à contre-cœur des gens que j'adore, que j'admire, mais c'était trouver une liberté folle dans je fais ce que je veux, quand je veux, les projets que je veux, les projets que j'affectionne, les mettre dans l'ordre que je veux. Donc ça, ça a été un bonheur immense que j'avais pas encore connu. Et puis c'était la fin d'un chapitre, j'ai fait 5 ans quand même à la Comédie Française, et 5 ans, c'était super, c'était un peu ce que j'imaginais faire.
Alors revenir au théâtre, où, quand, quoi, comment?
J'ai un projet avec Sébastien Poudroux, qui est sociétaire à la Comédie Française, que j'adore, donc on écrit ensemble. Donc j'aimerais bien retourner au théâtre avec ça, mais je suis ouvert aussi à d'autres choses, et puis je cherche le meilleur projet, mais il y a des choses dans les tuyaux, comme on dit joliment.
Oh, les tuyaux, lancer une perche, il suffit d'écouter. On va parler de tuyaux, Pierre, de liberté, mais aussi de passion et de larmes, juste après Massive Attack, Teardrop, sur l'album Mezzanine en 1998. Vous êtes sur France Inter avec Pierre Niney. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Il est exactement comme vous vous l'imaginez, juvénile et coquet. C'est la Ninance, hein, quelque part entre le Canneton et Monsieur Seguin dans sa prime adolescence. La peau veloutée pêche, le regard noir lumière, la mèche pétrolane, il est caresse, il est duvet, il est soin, tout en... Mais non, mais c'est vrai. Tout en... Comment ça s'appelle déjà ces blousons avec le...
Ce que j'ai là?
Ouais, un aviateur, hein, tout un aviateur,
en aviateur.
Le comédien Pierre Ninet, invité de Boomerang pour Amant de Nicole Garcia au cinéma demain. Et à propos de votre personnage et de celui de Stacy Martin, Nicole Garcia dit une chose qui m'a intéressée. Elle dit, ces personnages voudraient agir, mais en réalité, ils sont agis. Cette phrase, comment vous l'entendez-vous?
Comme de la tragédie grecque, quoi. Je crois que c'était ça. C'est pour ça que j'ai eu cette sensation de théâtre quand elle m'a envoyé le scénario. J'ai pensé à Musset aussi, la fin de On ne badine pas avec l'amour, où ils sont marqués à jamais par le fer rouge du trauma, de la mort. Il y a quelque chose comme ça qui plane dans ce film, qui est inéluctable, comme un train dans la nuit, inarrêtable. Et c'est beau.
Vous parliez de réacteur et d'acteur tout à l'heure, mais c'est passionnant. Dans quelle mesure être acteur, ce n'est pas agir, mais être agi, justement, être habité par quelque chose qui vous guide presque malgré vous.
C'est bien de le voir comme ça, j'aime bien. J'aime bien l'idée qu'on se lance parfois aussi, parce que moi, on dit que je suis contrôle fric, mais en fait... Moi, j'ai accepté cette image parce qu'elle me fait rire, et puis j'y vois le terme bosseur en fait derrière. Et moi, j'ai toujours bien aimé travailler. J'aime bien ça. J'aime bien faire des scènes, essayer des choses, tenter des choses. Mais j'aime bien aussi l'idée que quand on arrive sur le plateau, en fait, on ne sait pas où on va être emmené, et que justement, quand je dis réacteur, bah c'est les autres acteurs, les autres interprètes qui peuvent t'emmener à un endroit que t'avais pas du tout prévu, et il faut pouvoir les suivre. Il faut pouvoir être au présent, quoi.
Qu'est-ce qui est le plus docile en vous, Pierre Ninet?
Mais moi, je suis très docile quand j'aime. C'est-à-dire, quand je débarque sur un projet que j'aime, un scénario que j'aime, je suis très docile. Le réalisateur peut m'emmener faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Alors, cette idée qu'on est agi quand on est acteur, cette idée qu'on est réacteur, se pourrait-il qu'on devienne acteur malgré soi, alors que ça nous échappe complètement?
Ouais. Mais je pense qu'il y a déjà eu des acteurs non-acteurs dans des films où on était tous émerveillés, quoi. On a tous dit, mais il est pas acteur, lui, elle est pas actrice. Et en fait, c'est des bons réacteurs, quoi. Ils ont pas appris, mais ils réagissent à la personne en face. Moi, je pense avoir jamais été aussi bon, que dans certaines scènes de François Ozon, du film Franz. Parce que je jouais avec une des plus grandes actrices au monde, je pense, qui s'appelle Paula Baer, qui est dans le film. Et Paula est inouïe. Et je la regardais jouer et j'étais aux premières loges, j'avais l'impression vraiment d'assister à un truc extraordinaire, et je répondais, je me disais waouh, j'ai bien répondu, quoi, mais c'était grâce à elle.
C'est intéressant parce que votre personnage dans Amant, c'est un garçon assez perdu qui vivote de trafic et de petits boulots, un garçon qui n'a jamais trouvé sa place. Quand est-ce que vous avez su où était votre place, vous, Pierre?
Moi, j'ai su avec le théâtre, hein, tout bêtement. J'ai su au collège, en quatrième, Monsieur Elbaum, professeur d'anglais, a décidé de faire un petit atelier théâtre. Et j'avais appris par cœur du Novarina, que je comprenais rien à ce que je faisais, à ce que je disais. Et puis le jour où on l'a joué devant des gens, bah, ils ont ri. Et là, je me suis dit, ah, j'ai peut-être une utilité. C'est peut-être de raconter un peu des histoires que même moi je comprends pas parfois, mais qui parlent au public, The Boss, encore. Et puis là, je me suis dit, ouais, ça peut être ce à quoi je peux être bon, peut-être. Et puis après, avec les années, ça s'est confirmé que j'aimais ça vraiment, quoi.
J'aimerais que vous parliez au public maintenant. Et à moi aussi, si vous le voulez bien, vous êtes venu avec un texte ce matin. C'est un texte de Laurent Godet, de son livre qui s'appelle Eldorado. C'est vous qui l'avez choisi. Et je serais heureux que vous nous disiez pourquoi. Et que vous nous le disiez, si vous voulez bien.
Je commence par lire.
Ok.
Allez. Boubacar se met à marcher, sans dire un mot, en montrant du doigt la direction de l'ouest. Il dit simplement « Par là ». Je découvre en le contemplant qu'il boite de la jambe gauche. Je voudrais rire. Un homme tabassé et un boiteux marchent vers l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, sans rien sur le dos. Nous sommes deux silhouettes improbables et nous partons à l'assaut du monde infini. Sans eau, sans carte. Cela fera rire les oiseaux qui nous survoleront. « Par là ». A-t-il dit, comme s'il s'agissait d'atteindre le trottoir d'en face. Nous partons pour un voyage de milliers de kilomètres. Je n'ai plus d'argent, ni de force. Alors oui, je peux rire. J'accepte ce guide boiteux comme compagnon grotesque de mon voyage. Nous marchons, sans parler, sans penser à la nourriture qu'il va falloir trouver, à l'argent qu'il va falloir gagner pour que le voyage continue. Nous marchons. Boubacar, malgré sa jambe abîmée, marche, avec le sérieux des fous. Je suis mon guide aliéné, peu importe que les lézards rient de nous, le monde est trop grand pour mes pieds, mais je poursuivrai.
Et pourquoi ce texte-là ?
J'adore Laurent Godet, j'ai été bouleversé par son écriture depuis que j'ai 15 ans, et c'est peut-être un des premiers livres que j'ai lu du Laurent Godet, vraiment, en fait, parce que je n'étais pas un gros lecteur. Et puis Eldorado, ça m'avait... En fait, j'avais déjà commencé à écrire une pièce, moi, qui s'appelait « Si près de Ceuta », et c'était la première fois que j'écrivais. Et ça racontait deux gardes frontières et deux hommes qui essaient de passer une frontière la nuit. Et puis je suis tombé sur Eldorado, qui parlait exactement du même thème, et de ces solitudes qui se croisent dans la nuit, de ce monde moderne, aux murs hauts et aux barbelés... dans lesquels on retrouve des bouts de tissu, mais aussi des bouts de chair le lendemain des tentatives de passage à Ceuta, à Melilla, dans ces enclaves espagnoles qui représentent les portes de l'Europe. Et ce sujet m'a toujours bouleversé, et je le vois toujours comme un petit garçon qui veut pas et qui peut pas comprendre pourquoi le monde est comme ça.
Dans quel monde est-ce que vous avez l'impression de vivre ? Ce sera ma dernière question.
Et ce sera ma dernière réponse, Augustin. Ce sera ma dernière interview. Dans quel monde j'ai l'impression de vivre ? Un monde où il va falloir se battre beaucoup. Je peux pas m'empêcher, quand vous me posez cette question, de penser à l'écologie. Donc un monde qui me tourmente un peu. Mais où j'espère que chacun peut faire sa part pour amener de l'humanité, parce que c'est un monde qui peut tourmenter, ouais.
Merci infiniment, Pierre Ninet, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Amant, de Nicole Garcia, avec Stécie Martin et Benoît Magimel, notamment, sort demain. Ceci réussit que glaçant tout de suite les médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Ça m'a griffé comme une épine instantanée, divine. Ça m'a laissé infime, presque effacée, sublime. Tout mon amour est là, planqué sous la peau, un petit bout de bois qui en dit trop. Cette blessure est à toi, et toi tu ne la vois même pas. Ah. Tout mon amour est là, planqué sous la peau, un petit bout de bois qui en dit trop. Cette blessure est à toi, et toi tu ne la vois même pas. Ça m'a collé sous la poitrine, un truc pété, un boulon dans la machine. Ça m'a laissé un peu between, inconsolé, comme un boxeur le cœur qui sort. Si tu veux, je te file la con.